France Inter. Les admirations littéraires de
François Sureau. Bonsoir. Pendant quatre dimanches, je vais vous parler, vous présenter, vous lire des auteurs que j'aime particulièrement et qui m'ont accompagné et qui continuent de m'accompagner encore, des textes que j'ai choisis pour vous. Et je serai aidé dans cet exercice par Victoire Sureau, qui est, autant l'avouer, ma fille. Et vous verrez que Victoire prêtera sa voix, par exemple, à Marguerite Yourcenar et à d'autres protagonistes de cette aventure littéraire que nous allons donc vivre ensemble.
Je voudrais savoir, Marie Yourcenar, depuis quand sur votre passeport à la rubrique profession, il y a marqué écrivain ?
Je me rends compte que c'est depuis 1929. C'était hier que j'avais 25 ans.
Mais vous aviez déjà publié un livre.
J'avais déjà publié un livre et je portais déjà presque exclusivement le nom de Marguerite Yourcenar, qui est un pseudonyme, comme vous savez, mais qui est devenu légal entre-temps.
Dans votre premier livre, Alexis, à un moment, manifeste sa volonté de devenir un grand musicien. Il dit
un grand musicien.
Et il dit à un moment, enfant, j'ai désiré la gloire. Oui. Est-ce que vous, enfant, vous avez désiré...
Enfant, j'ai désiré la gloire, en effet.
Et la gloire de l'écrivain.
Oh, je ne savais pas trop. Je voulais être quelque chose d'important.
Il est possible de voir Marguerite Yourcenar comme le dernier grand écrivain du XIXe siècle. Tout y incite, le classicisme de sa prose, bien sûr, son goût des antiques ou des civilisations disparues, le style de ses essais autobiographiques et même sa manière d'être. Consciente d'elle-même, retirée et vivant d'une imprescriptible solitude, et usant de cette solitude pour se créer une image presque monastique. Il est peu d'auteurs qui donnent autant l'impression d'être entrés en littérature comme on entre en religion, à mi-chemin entre l'ermite vagabond et le grand prêtre, et peut-être, puisqu'il s'agit de littérature, d'autant plus grand prêtre qu'on est ermite vagabond. Rinaldi disait de la littérature qu'elle était du chagrin, corrigé par la grammaire. Personne, mieux que Marguerite Yourcenar, n'a donné au chagrin cette altitude altière que sa grammaire a si bien servi, aux antipodes du caractère plébéien de nombre de plaintes contemporaines. En même temps, au-delà de l'attitude 19e-iste, elle a hérité des moralistes classiques, comme de cette forme de la lettre-confession propre au XVIIIe siècle, ce qui donne à son œuvre ce ton à la fois sobre et mélancolique, conférant à la moindre de ses pages un poids étonnant de silence.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Cérémonie historique à l'Académie française. Pour la première fois, en effet, cette vénérable institution accueillait une femme.
On s'explique mieux. Son désir d'entrer à l'Académie française, désir attesté par toutes ses lettres, non seulement d'être la première femme à y entrer, mais d'y entrer tout court. Et d'y entrer seulement, puisqu'après son élection, elle n'est, je crois, à peu près jamais venue y siéger. C'était pour elle entrer dans l'empyrée. Non pas l'empyrée de toute l'Académie, d'ailleurs, mais l'empyrée des grands écrivains qui y ont appartenu, Chateaubriand, Vigny ou Julien Green. De cela, d'Ormesson, qui la recevait, en a eu la conscience la plus claire, lorsqu'il a dit, à l'ouverture de son discours de réception,
« Madame, c'est une grande joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette vieille et illustre maison où vous êtes, non pas certes le premier venu, mais enfin la première venue. Une espèce d'apax du vocabulaire académique, une révolution pacifique et vivante, et où vous constituez peut-être, à vous toute seule, un des événements les plus considérables d'une longue et glorieuse histoire. Je ne vous cacherai pas, madame, que ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce que vous êtes un grand écrivain. Être une femme ne suffit toujours pas pour s'asseoir sous la coupole, mais être une femme ne suffit plus pour être empêchée de s'y asseoir. »
Mais Marguerite Yourcenar est aussi autre chose que le dernier grand écrivain du 19e. Elle appartient entièrement au 20e par son côté réfractaire et comme blessée par l'étrangeté du monde moderne. Il y a chez elle la révolte en moins un peu du sentiment qui animait les surréalistes de ce côté-ci de la Manche, T.S. Eliot ou Evelyn Waugh de l'autre côté, un mélange étonnant de fidélité généalogique et d'absence complète de préjugés. C'est ce qui donne leur saveur étonnante aux pages que nous allons vous lire. Vous connaissez les grandes caractéristiques de sa vie. Je les rappelle pour mémoire en vous recommandant la lecture de l'excellente biographie que Josiane Savigno lui a consacrée voici quelques années. Marguerite Yourcenar est née en 1903 à Bruxelles, sous le nom de Marguerite de Crayancourt, dans un milieu aristocratique. Elle a tracé de son père, libéral, anticonformiste, un beau portrait que je vais vous lire tout à l'heure. Entrée en littérature en 1929, avec Alexis ou le traité du vin combat, elle a vite marqué les esprits avec les Nouvelles Orientales ou bien le Coup de grâce, magnifique roman sur un trio amoureux qui devait plus tard être porté à l'écran par Volker Schlöndorff.
Impossible de se tromper. L'odeur d'un champ après une bataille est toujours identique. Le premier cadavre, c'est un souvenir qu'on garde. Tu sais, on a beau y être habitué, c'est à chaque fois la même horreur.
En 1939, elle gagne les États-Unis où elle s'établit avec sa compagne Grace Frick, rencontrée à Paris en 1937. Elle publie en 1951 Les Mémoires d'Adrien, en 68 L'œuvre au noir, deux grands livres qui la feront reconnaître comme un écrivain majeur, puis, à partir de 1974, les trois livres autobiographiques qui composent Le Labyrinthe du Monde, Souvenirs pieux, Archives du Nord et Quoi, l'éternité. Elle est élue en 1980 à l'Académie française au fauteuil de Roger Caillois et meurt 7 ans plus tard à Bab Harbor, dans le Maine. La semaine dernière, passant à Bruxelles, j'ai traversé par hasard un pauvre jardin surplombé par de hideux immeubles modernes. Mais sur l'un des murs, on pouvait lire cette phrase de Marguerite Yourcenar. « Plaise à celui qui est peut-être de dilater le cœur humain à la mesure de toute la vie. »
Marguerite Yourcenar.
Quand on écoute les gens parler de leur famille, par exemple, on est très frappé de voir qu'ils en parlent à propos d'eux. Ma mère me faisait d'excellents gâteaux, mon père me flanquait des gifles. Mais c'est toujours mon père, ma mère qui, mon père qui. Mais ce n'est pas mon père pour lui-même, ce n'est pas ma mère pour elle-même. C'est vu à leur point de vue, ils tirent à eux. Et c'est le contraire qu'il faut faire, c'est voir ces gens-là pour eux-mêmes. Évidemment, nous avons compté pour eux jusqu'à un certain point, pendant un certain temps. Mais enfin, ils étaient bien d'autre chose que ça.
Lorsque vous parlez de votre père, vous dites que par rapport à moi et par rapport à vous, il était distant et féerique.
Il était vivant.
Mais avec lui, vous vous êtes senti plus tard à peine comme avec un père, plutôt comme avec un ami.
Bien sûr, c'est ça qui était le beau de l'expérience.
C'est la chance pour un enfant de considérer immense. Son père plus comme un ami
immense,
que comme un père.
Immense.
Certains éducateurs disent le contraire.
Oui. Seulement quand on pense de nouveau au nombre d'enfants qui n'aiment pas leur père, oui. On se dit que les éducateurs se mettent le doigt dans l'œil.
Je vais commencer notre exploration par précisément le portrait de son père qu'elle a beaucoup aimé et qu'elle a tracé au début du Labyrinthe du Monde. Tournons rapidement les feuillets de l'album. Il y aura bientôt Michel, âgé de 7 ans, fragile et léger, à qui il suffirait de jeter sur les épaules une dalmatique pour en faire un ange de Fouquet ou de Roger de la Pasture. Mais les yeux ont déjà un arrière-fond de tristesse. On sait, à 7 ans, ce que c'est que la vie. Il y aura plus tard le collégien un peu épais, nourri de bonne soupe, avec un coin de malice dans l'œil, le beau ténébreux de 20 ans, d'une sensualité assez trouble, inquiété par les fantasmes du monde et de la chair, le militaire, qui étreint son uniforme et ses jeunes moustaches, l'homme du monde, fin de siècle, une cigarette entre les doigts, rêvant à je ne sais quoi d'inaccompli, le cavalier au crâne rasé à la hongroise, le monsieur de 50 ans en jaquette, pas le moins du monde gêné par la hauteur de son faux col et qu'on sente apte à donner des ordres et à distribuer des pourboires, image d'un milieu au moins autant que d'un homme. Le même monsieur, sur une plage, en flanelle blanche, emboîtant le pas à la jolie femme du moment. Mais les instantanées de la vieillesse me retiennent davantage. Un vieil homme pensif, correctement vêtu de tissu anglais, installé à une table dans le jardin d'un hôtel du Cap Ferrat, penchant sa haute taille vers un petit chien avec lequel il a fait amitié, curieusement isolé d'une personne assise sur la chaise d'en face, qu'il vient de prendre pour femme, un peu pour la récompenser de sa fidélité et un peu parce qu'il lui est commode de l'avoir comme garde-malade et comme compagne. Le même vieillard, seul, assis cette fois sur les marches d'un palais ou d'un cloître italien, les mains pendantes entre les genoux, avec son air de douceur et de force usée. Le même enfin, appuyé au parapet du pont d'Arissy et adossé au paysage immémorial du Latium. Il est très là, ce dont je ne m'étais pas aperçu quand j'ai pris cette photographie. Ce souvenir d'une excursion aux environs de Rome et surtout l'image de la fin du voyage. Dans ses vêtements de lainage grisâtre, Michel a l'air d'un vieux mendiant au soleil. Plus je vieillis moi-même, plus je constate que l'enfance et la vieillesse non seulement se rejoignent, mais encore sont les deux états les plus profonds qu'il nous soit donné de vivre. L'essence d'un être s'y révèle, avant ou après les efforts, les aspirations, les inhibitions de la vie. Le visage lisse de Michel enfant et le visage buriné du vieux Michel se ressemblent, ce qui n'était pas toujours le cas pour les visages intermédiaires de la jeunesse et de l'âge mûr. Les yeux de l'enfant et ceux du vieillard regardent, avec la tranquille candeur de qui n'est pas encore entré dans le bal masqué ou en est déjà sorti. Et tout l'intervalle semble un tumulte vain, une agitation avide, un chaos inutile par lequel on se demande pourquoi on a dû passer. À présent, pour entendre plus directement la voix de Marguerite Yourcenar, j'ai choisi plusieurs lettres, une adressée à un critique et l'autre à deux autres correspondants, Gantz et Wiesel. Et je vais commencer par cette lettre adressée à un critique où elle essaye de se définir elle-même avec ce mélange de réserve, de sobriété et d'honnêteté qui la caractérisait.
Monsieur, j'ai été infiniment touché de votre lettre du 20 juillet, qui me rejoint à Munich. Et vous faisant confiance sans vous connaître, je vais tâcher de répondre tout simplement à vos questions, en me servant de votre formulaire.
Êtes-vous française, d'origine française ? Votre père était, votre mère était ?
Je réponds à ces trois questions en une fois. Je suis française de naissance, bien que née par hasard à l'étranger, en Belgique, que j'ai quittée 8 jours après ma naissance. J'ai acquis en 1947 la nationalité américaine, mais suis restée totalement française d'habitude et de culture. Bien que j'ai vécu dans tant de pays que j'ai peine à me croire, par moments, une nationalité quelconque. Mon père appartenait à la petite noblesse française, j'entends par là la noblesse non titrée. Il était originaire du nord de la France, près de Lille. J'ai moi-même vécu dans ce pays ma petite enfance, dans une propriété à la campagne. Ma mère, dont je n'ai aucun souvenir, l'ayant perdue à la naissance, était d'une famille bien connue de la noblesse belge, originaire de la vallée de la Meuse. Mes ascendances sont donc entièrement de la Flandre française ou wallonne.
À quelle classe sociale appartenez-vous ?
La réponse ci-dessus devrait répondre aussi à cette question, mais il n'en est rien, parce que notre époque a connu des conditions de vie si changeantes que nous passons tous continuellement de milieu en milieu. Je n'appartiens pas à la vieille aristocratie, avec laquelle je n'ai pas ou je n'ai plus d'attache, mais dont j'ai gardé certaines habitudes de vivre, sinon de penser. Je n'appartiens pas à la haute bourgeoisie, ce qui demande toujours, il me semble, une stabilité, des bien-fonds, une surface que je n'ai pas et n'ai pas cherché à avoir. À la petite bourgeoisie ou à la classe ouvrière, moins encore. Bien qu'il me soit arrivé de vivre dans des conditions de travail physique et de simplicité qui me rapprochaient de cette dernière. Le terme anglais, professional class, pourrait convenir davantage. Mais que veut-il dire au fond ? Une profession n'est pas une classe sociale. Et d'ailleurs, quoique j'écrive et publie depuis près de 25 ans, cette profession n'a pas été pour moi une manière de gagner ma vie. Elle ne l'est pas encore maintenant. J'ai été professeur pendant près de 10 ans aux États-Unis, mais par la suite d'un hasard de guerre, et de toute façon, je ne donnais à cette profession qu'une partie de mon temps. Mes amis ou les gens que je connais ou fréquente appartiennent à peu près à toutes les classes, comme à tous les pays. Peut-être l'écrivain est-il quelqu'un qui a pour privilège d'échapper à la servitude du milieu social.
Avez-vous eu une vie facile, matériellement ?
Seulement plus ou moins, et jamais de façon durable. Mon enfance a été luxueuse, mon adolescence appauvrie. Ensuite, j'ai eu, mais sans jamais aucune sécurité véritable, de quoi voyager, m'informer, m'instruire, et même vivre avec un certain luxe, jusqu'en 39. Passé cette date, et me trouvant pour des raisons personnelles, non politiques ou raciales, aux États-Unis, j'ai été forcée de travailler pour vivre. Divers travaux, dont le poste de professeur, mentionné plus haut, a été le plus durable. Il y en a eu d'autres, plus pénibles, aussi inutiles qu'ils me paraissent aujourd'hui, à tort ou à raison, presque indigne. Mais j'ai toujours réussi à garder au moins une partie de mon temps pour mon travail personnel d'écrivain. Aujourd'hui, en dépit de l'appoint financier apporté par la réussite inattendue de certains de mes livres, l'avenir reste incertain. Mais grâce aux quelques réserves que je possède, je me crois assuré, autant qu'on peut l'être, d'un minimum de subsistance et de liberté.
Quel âge aviez-vous quand vous avez écrit les mémoires d'Adrien ?
J'ai pensé à ce livre fort jeune, j'y travaillais déjà, à 20 ans. Puis j'ai détruit cette première version, et l'ouvrage, tel que vous le connaissez, a été écrit entre 47 et 51. En janvier 51, au moment où j'écrivais la dernière page de l'ouvrage, j'avais 48 ans.
Pourriez-vous citer les deux livres de vous que vous estimez être les meilleurs ?
Je suis plus ou moins forcée d'en nommer deux, parce qu'ils sont restés également près de moi. Alexis ou le traité du vain combat, écrit à 24 ans, mais reparu chez Plon en 52. Et Feu, une série de poèmes en prose, paru en 36 chez Grasset, où l'on peut encore l'obtenir.
Et un autre livre préféré du public ?
Alexis a un grand nombre d'amis parmi ses lecteurs. Je pourrais citer aussi un autre livre, Le coup de grâce, paru en 39, reparu en 53 chez Gallimard. Mais il m'est au fond plus extérieur que ceux que j'ai nommés ci-dessus. Je regrette d'avoir dû répondre un peu longuement à vos questions, mais les réponses brèves sont rarement tout à fait claires ou tout à fait exactes. Je vous remercie, très sincèrement, pour l'intérêt que vous voulez bien montrer pour mon œuvre et pour la peine que vous avez prise de rechercher derrière l'œuvre certains détails concernant la personne. Je veux voir là, non de la curiosité, mais un effort de compréhension qui me touche beaucoup.
Les admirations littéraires de François Sureau sur France Inter.
Dans une île perdue de l'océan, Marguerite écrit, Marguerite vit. Elle revient en France de temps en temps, porter l'habit vert du printemps. Dans une île nommée Mon Désert, Marguerite écrit son alchimie. Les archives du Nord, son pays. Souvenir d'une archéologie. Du Gulf Stream, Marguerite écrit, Marguerite lit les vélins jaunis des Romains pour écrire les mémoires d'Adrien. Marguerite écrit, Marguerite vit. Elle revient en France de temps en temps. Signé Yourcenar, ses romans. Elle revient en France de temps en temps. Signé Yourcenar, ses romans.
François Sureau lit des textes de Marguerite Yourcenar.
À présent, une autre lettre, écrite en 1972 à Elie Wiesel, l'auteur de Célébration acidique, dans lequel Marguerite Yourcenar apporte des précisions qui pourront surprendre et qui sont passionnantes quant à la formation de sa pensée et à la nature de sa relation au monde.
Cher Elie Wiesel, j'ai lu et relu plusieurs fois ce printemps votre Célébration acidique, qui est un admirable livre. J'ose dire qu'il m'a apporté sur le ton, l'élan, la ferveur et le drame humain et divin des maîtres acidiques infiniment plus que le livre que Martin Buber leur a consacré. Livre excellent, certes, mais dans lequel les lignes de force du sujet ne se dégageaient pas comme elles le font chez vous. Je connais quelque peu ces paysages de Galicie et de Pologne, y compris, pour l'avoir visité avec horreur et respect, ce lieu encore invisible et qui pourtant existait déjà hors du temps, Auschwitz. Je peux donc m'imaginer un peu le côté extérieur de ces aventures. Quant au côté intérieur, il est à nous tous. Je n'oublierai jamais que le hasard nous a fait nous rencontrer en 68 à Paris, dans la Foire des Prix. Votre présence m'a soutenue dans deux ou trois de ces moments qui sont supposés représenter pour un écrivain l'un des sommets du succès, mais où il me semble que nous étouffions tous deux. j'ai su tout de suite qu'il y avait pour vous une autre réalité. Merci d'avoir écrit ce beau livre et quelques autres. J'ai commandé en anglais One Generation After, avec les sympathiques pensées de Marguerite Yourcenar.
Et maintenant, voici une lettre écrite le 12 mai 1980 à Wilhelm Gans, qui est une lettre où Marguerite Yourcenar définit extrêmement bien la manière qu'elle avait d'être là et de n'être pas là en même temps.
Cher ami, vous écrivez comme on combat. Votre lettre à Cohen est belle et le commencement m'a ravi. Je suis juif et antisémite. Que de fois n'avais-je pas dit que j'étais française et anti-française, américaine et anti-américaine, femme et anti-féministe, et cela pour les mêmes raisons que vous donnez. Merci. Quant à maigrir, c'est fait. Les 6 mois passés depuis la mort de Grace Frick, avec leurs travaux et leurs voyages, m'ont fait perdre 10 kilos, après l'immobilité quasi complète de la vie des 4 ou 5 dernières années. Je ne m'en plains pas, il faut peser le moins possible sur la Terre. Beau voyage de 45 jours, dont la croisière n'a été qu'une dizaine, le reste donné à la route et à de sauvages lieux. Je souris toujours beaucoup, sourire de sympathie plutôt que de joie, mais toute sympathie se transforme en joie. Si vous revenez jamais aux États-Unis, songez à North East Harbor. Mais je serai sans doute quelques mois en Europe cette année. Je vous remercie de nouveau, en vous priant de me croire votre ami.
Et maintenant, nous allons revenir au début avec ce texte, qui est le premier texte que Marguerite Yourcenar a publié en 1929, Alexis ou le traité du vain combat, très inspiré en effet par les livres de confession du XVIIIe siècle, un livre où elle a mis beaucoup d'elle-même, qui est encore aujourd'hui un des livres préférés de ses très nombreux lecteurs, et où sa vision du monde apparaît de manière particulièrement touchante dans cette sobre mélancolie qui était l'une des caractéristiques de son style.
C'était alors la même construction blanche, tout en colonnades et en fenêtres, de ce goût français qui prévalut au siècle de Catherine. Mais il faut vous rappeler que cette vieille maison était beaucoup plus délabrée qu'aujourd'hui, puisqu'elle n'a été réparée que grâce à vous, à l'époque de notre mariage. Il ne vous est pas difficile de l'imaginer alors. Souvenez-vous de l'état où elle se trouvait quand vous y vîtes pour la première fois. Sûrement, on ne l'avait pas élevée pour y vivre une vie monotone. Je suppose qu'elle avait été bâtie pour y donner des fêtes, au temps où l'on donnait des fêtes, par quelque aïeul qui voulait montrer du faste. Toutes les maisons du XVIIIe siècle sont ainsi. Il semble qu'elles soient construites pour la réception des hôtes, et nous n'y sommes jamais que des visiteurs mal à l'aise. Nous avions beau faire, celle-ci était toujours trop grande pour nous, et il y faisait toujours froid. Il me semblait aussi qu'elle n'était pas solide. Et certes, la blancheur de pareille maison, si désolée sous la neige, fait penser à de la fragilité. On comprend bien qu'elles ont été conçues pour des pays beaucoup plus tièdes et par des gens qui prennent plus facilement la vie. Mais je sais maintenant que cette construction, d'apparence légère, qu'on dirait prévue pour l'espace d'un été, durera infiniment plus longtemps que nous et peut-être que notre famille. Il se peut qu'elle aille un jour à des étrangers. Cela lui serait indifférent, car les maisons vivent d'une vie particulière, à laquelle notre vie importe peu et que nous ne comprenons pas. J'y revois des visages sérieux, un peu tirés, des visages pensifs de femmes, dans des salons trop clairs. L'aïeul dont je vous parlais tout à l'heure avait voulu que les pièces fussent spacieuses, afin que la musique y sonnât mieux. Il aimait la musique. De lui, on ne parlait pas souvent. Il semblait qu'on préférât n'en rien dire. On savait qu'il avait dilapidé un grand avoir. Peut-être lui en voulait-on, ou bien y avait-il autre chose. On passait sous silence encore 2 générations. Et probablement, rien de remarquable ne valait qu'on s'y intéressât. Mon grand-père venait ensuite. Il s'était ruiné au temps des réformes agraires. Il était libéral, il avait des idées qui pouvaient être très bonnes, mais qui naturellement l'avaient appauvri. Et la gestion de mon père fut aussi déplorable. Il mourut jeune, mon père. Je m'en souviens très peu. Je me rappelle qu'il était sévère pour nous autres enfants, comme sont parfois sévères les gens qui se reprochent de n'avoir pas su l'être envers eux-mêmes. Bien entendu, ce n'est là qu'une supposition et je ne sais rien de mon père. J'ai remarqué quelque chose, Monique. On dit que les vieilles maisons contiennent toujours des fantômes. je n'en ai jamais vu. Et pourtant, j'étais un enfant craintif. Peut-être je comprenais déjà que les fantômes sont invisibles, parce que nous les portions en nous-mêmes. Mais ce qui rend les vieilles maisons inquiétantes, ce n'est pas qu'il y ait des fantômes, c'est qu'il pourrait y en avoir. Je crois que ces années d'enfance ont déterminé ma vie. J'ai d'autres souvenirs, plus proches, plus divers, peut-être beaucoup plus nets, mais il semble que ces impressions nouvelles, ayant été moins monotones, n'aient pas eu le temps de pénétrer assez profondément en moi. Nous sommes tous distraits, parce que nous avons nos rêves. Seul le perpétuel recommencement des mêmes choses finit par nous imprégner d'elles. Mon enfance fut silencieuse et solitaire. Elle m'a rendue timide et par conséquent taciturne. Quand je pense que je vous connais depuis près de 3 ans et que j'ose vous parler pour la première fois, encore n'est-ce que par lettre et parce qu'il le faut bien. Il est terrible que le silence puisse être une faute. C'est la plus grave de mes fautes, mais enfin je l'ai commise. Avant de la commettre envers vous, je l'ai commise envers moi-même. Lorsque le silence s'est établi dans une maison, l'en faire sortir est difficile. Plus une chose est importante, plus il semble qu'on veuille la taire. On dirait qu'il s'agit d'une matière congelée, de plus en plus dure et massive. La vie continue sous elle, seulement on ne l'entend pas. Vos réunions étaient pleins d'un silence qui paraissait toujours plus grand. Et tout silence n'est fait que des paroles qu'on n'a pas dites. C'est pour cela peut-être que je devins un musicien. Il fallait quelqu'un pour exprimer ce silence, lui faire rendre tout ce qu'il contenait de tristesse, pour ainsi dire, le faire chanter. Il fallait qu'il ne se servît pas des mots, toujours trop précis pour n'être pas cruel, mais simplement de la musique, car la musique n'est pas indiscrète. Et lorsqu'elle se lamente, elle ne dit pas pourquoi. Il fallait une musique d'une espèce particulière, lente, pleine de longues réticences et cependant véridique, adhérant au silence et finissant par s'y laisser glisser. Cette musique, ça a été la mienne.
Aimez-vous la musique ?
Bien sûr.
Marguerite Yourcenar.
Bien sûr, sans me considérer le moins du monde comme un technicien.
Car vous avez des phrases sur la musique, par exemple dans Alexis ou Traité du vin combat, car la musique, dites-vous, n'est pas indiscrète et lorsqu'elle se lamente, elle ne dit pas pourquoi.
Ah ça, évidemment, c'est une des grandes qualités de la musique, c'est que chacun peut traduire à son gré sans nécessairement trahir l'artiste. Tandis que traduire à son gré une œuvre de Victor Hugo ou Shakespeare, c'est probablement trahir, parce que enfin, les mots sont là qui ont un sens, qu'il faut respecter. Tandis qu'en musique, après tout, l'auditeur, jusqu'à un certain point, fait ce qu'il veut.
Enzo Enzo chante « Vous ne saurez jamais », un texte de Marguerite Yourcenar.
Vous ne saurez jamais que votre âme voyage là au fond de mon cœur, que la beauté du monde de votre douceur, lui de votre clarté, que ni le temps ni l'âge n'empêcheront jamais. Qu'un peu de votre voix a passé dans mon chant, que j'emporte votre âme comme une lampe d'or qui m'éclaire en marchant. Des sentiers. avez suivi. Que vous vivez un peu, puisque je vous survis.
François Sureau lit des textes de Marguerite Yourcenar.
Voici un des plus beaux portraits qu'elle ait écrit et qui est, d'une certaine manière, sans vouloir verser exagérément dans les attitudes sainte-beuviennes. Vous connaissez la controverse qui opposait Proust à Sainte-Beuve sur le caractère, comment dire, totalement autonome de l'écrivain par rapport aux circonstances particulières de sa vie, idée de Proust ou idée au contraire que l'on pouvait toujours trouver l'homme derrière la moindre phrase de l'écrivain, idée propre à Sainte-Beuve. Quoi qu'il en soit de ce débat qui a divisé la critique et peut-être continue encore de la diviser, je voudrais vous lire maintenant, pour terminer, ce passage extraordinaire des Mémoires d'Adrien. Quand je considère ma vie, je suis épouvanté de la trouver informe. L'existence des héros, celle qu'on nous raconte, est simple, elle va droit au but, comme une flèche. Et la plupart des hommes aiment à résumer leur vie dans une formule, parfois dans une vanterie ou dans une plainte, presque toujours dans une récrimination. Leur mémoire leur fabrique complaisamment une existence explicable et claire. Ma vie a des contours moins fermes. Comme il arrive souvent, c'est ce que je n'ai pas été, peut-être, qui l'a défini avec le plus de justesse. Bon soldat, mais point grand homme de guerre, amateur d'art, mais point cet artiste que Néron crut être à sa mort, capable de crimes, mais point chargé de crimes. Il m'arrive de penser que les grands hommes se caractérisent justement par leur position extrême, où leur héroïsme est de se tenir toute la vie. Ils sont nos pôles ou nos antipodes. J'ai occupé toutes les positions extrêmes tour à tour, mais je ne m'y suis pas tenu. La vie m'en a toujours fait glisser. Et cependant, je ne puis pas non plus, comme un laboureur ou un portefeuille vertueux, me vanter d'une existence située au centre. Le paysage de mes jours semble se composer, comme les régions de montagne, de matériaux divers entassés pêle-mêle. J'y rencontre ma nature, déjà composite, formée en parties égales d'instinct et de culture. Ça et là affleurent les granites de l'inévitable, partout, les éboulements du hasard. Je m'efforce de reparcourir ma vie pour y trouver un plan, y suivre une veine de plomb ou d'or ou l'écoulement d'une rivière souterraine. Mais ce plan tout factice n'est qu'un trompe-l'œil du souvenir. De temps en temps, dans une rencontre, un présage, une suite définie d'événements, je crois reconnaître une fatalité, mais trop de routes ne mènent nulle part, trop de sommes ne s'additionnent pas. Je perçois bien dans cette diversité, dans ce désordre, la présence d'une personne, mais sa forme semble presque toujours tracée par la pression des circonstances. Ses traits se brouillent, comme une image reflétée sur l'eau. Je ne suis pas de ceux qui disent que leurs actions ne leur ressemblent pas. Il faut bien qu'elles le fassent, puisqu'elles sont ma seule mesure et le seul moyen de me dessiner dans la mémoire des hommes ou même dans la mienne propre, puisque c'est peut-être l'impossibilité de continuer à s'exprimer et à se modifier par l'action qui constitue la différence entre l'état de mort et celui de vivant. Mais il y a, entre moi et ces actes dont je suis fait, un hiatus indéfinissable. Et la preuve, c'est que j'éprouve sans cesse le besoin de les peser, de les expliquer, d'en rendre compte à moi-même. Certains travaux qui durèrent peu sont assurément négligeables, mais des occupations qui s'étendirent sur toute la vie ne signifient pas davantage. Par exemple, il me semble à peine essentiel, au moment où j'écris ceci, d'avoir été empereur. Les trois quarts de ma vie échappent d'ailleurs à cette définition par les actes. La masse de mes velléités, de mes désirs, de mes projets même, demeure aussi nébuleuse et aussi fuyante qu'un fantôme. Le reste, la partie palpable, plus ou moins authentifiée par les faits, est à peine plus distincte.
Vous n'aimez pas tellement dire « je », et vous avez quand même tout au long de votre œuvre dit « je », c'est-à-dire vous vous êtes raconté.
Oui, mais à travers les autres. Et c'est là qui est intéressant, c'est là qu'est le joint intéressant. Parler de soi, mon Dieu, pourquoi ? On se connaît ou croit se connaître, on se connaît que trop, ce personnage est ennuyeux. Mais tâchez de comprendre un autre être, et un autre être qui diffère de nous par le tempérament. Zénon n'a pas le tempérament d'Adrien, et ni l'un ni l'autre n'ont mon tempérament. Et alors tâchez de les voir tels qu'ils ont été, c'est un accroissement d'humanité.
Les admirations littéraires de François Sureau.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Elle a été préparée par Perrine Malinge. La prise de son a été assurée par Jérôme Ragano et le mixage par Éric Villenfin.
La semaine prochaine, nous passons notre demi-heure littéraire en compagnie du Jean Giono, du Giono, de la naissance de l'Odyssée, des récits de la demi-brigade, du Hussard sur le toit et du Grand Troupeau.